Il est quoi, 19h, peut-être 20h? La journée de travail est enfin terminée. On a la fatigue physique et surtout la fatigue mentale qui se fait bien sentir.
Ouais, le moment où on a juste envie de s'écrouler.
C'est ça. Dehors, il fait nuit, il pleut peut-être un peu. Et là, au lieu de rentrer bien au chaud pour se détendre sur un canapé, bah, l'idée, c'est de se diriger vers une petite salle polyvalente de quartier.
La fameuse salle avec les chaises en plastique.
Exactement, la chaise en plastique, hyper inconfortable, sous la lumière blafarde d'un néon qui grésille à moitié. Tout ça pour passer la soirée à éplucher les comptes d'une petite association locale ou pour débattre pendant 2 heures du prochain événement de quartier.
Dit comme ça fait pas vraiment rêver.
Bah franchement, non. Quand on y pense de manière purement pragmatique, ça ressemble davantage à une corvée interminable qu'à un plan de carrière brillant. Du coup, la question qui vient immédiatement à l'esprit, c'est pourquoi quelqu'un s'infligerait ça volontairement?
C'est vrai que l'image d'Épinal du bénévole complètement épuisé sous le néon clignotant, c'est tenace. C'est très ancré dans l'imaginaire collectif.
On associe souvent ça à un sacrifice total, quoi.
Exactement. Mais ce qui est fascinant, c'est que si on change de perspective et qu'on observe les mécanismes à l'œuvre, bah, on réalise que cette petite salle polyvalente, c'est pas du tout un lieu de corvée.
Ah bon? C'est quoi alors?
En fait, c'est un laboratoire secret. Prendre des responsabilités associatives, particulièrement dans des rôles stratégiques, tu vois, comme trésorier, secrétaire général ou président, c'est souvent un accélérateur de carrière redoutable.
Un accélérateur de carrière, rien que ça.
Ouais, vraiment. C'est un tremplin professionnel qui avance masqué. Il est complètement déguisé sous les traits de l'engagement citoyen ou du bénévolat classique.
Le contraste est quand même saisissant. Passer d'une réunion de quartier à un mardi soir pluvieux à un accélérateur de carrière, il y a un fossé énorme à franchir. C'est presque contre-intuitif.
C'est totalement contre-intuitif, oui.
Du coup, notre mission aujourd'hui pour cette plongée en profondeur, c'est justement de décortiquer cette mécanique. Il s'agit de comprendre comment ce rôle, qui semble à première vue se limiter à du dévouement pur et à des tâches un peu ingrates, agit en fait au carrefour de la gestion financière, de la psychologie humaine et de la stratégie pure.
C'est exactement le cœur du sujet.
Et concrètement, comment s'opère cette transformation? Enfin, je veux dire, comment on passe de la tenue d'un petit registre de cotisation papier à un impact massif et mesurable sur un parcours pro?
Alors pour comprendre comment cette bascule s'opère, il faut regarder ce qu'on pourrait appeler le MBA accidentel.
Le MBA accidentel. L'expression est super bien trouvée.
Ouais, c'est vraiment l'apprentissage technique à l'état brut. C'est forgé dans l'expérience la plus concrète et souvent la plus contrainte. Prenons un exemple très parlant, celui de Camille.
D'accord. Alors, c'est qui Camille?
Camille, c'est une jeune cadre dans une PME. Un jour, par passion pour son sport, elle décide de rejoindre le bureau d'un club local en tant que trésorière.
Classique.
Voilà. Et l'attente initiale dans son esprit, elle est simple, presque basique. Elle s'imagine consacrer quelques heures par mois pour faire des budgets très rudimentaires.
En gros, pointer l'échec de cotisation à 15 euros, quoi.
C'est ça, pointer l'échec, régler deux ou trois factures d'équipement à la fin du trimestre.
Donc on est sur le niveau zéro de la comptabilité. On
Vos agas.
imagine un simple tableau Excel avec une colonne entrée et une colonne sortie.
Exactement. Mais le problème, ou plutôt la chance déguisée, dans son cas, c'est que la réalité du monde associatif la rattrape à une vitesse folle, même à toute petite échelle.
Ça se complexifie vite.
Prélite, elle ne se contente plus du tout de compter d'échecs. L'association, elle veut grandir. Et soudainement, Camille se retrouve propulsée dans des négociations hyper complexes avec des sponsors locaux pour financer des nouveaux maillots.
Ah ouais, on passe à un autre niveau là.
Et c'est pas fini. Surtout, elle doit monter des dossiers tentaculaires pour obtenir des subventions municipales ou régionales.
Oula, les dossiers de subvention publique?
Ouais, quiconque a déjà vu ça sait que c'est un labyrinthe administratif dingue, avec des critères d'éligibilité drastiques, des prévisionnels sur 3 ans, des justifications au centime près. Elle se met carrément à superviser des levées de fonds entières.
Donc on est effectivement très très loin de la petite colonne entrée et sortie. Mais comment ça se traduit dans sa vraie vie professionnelle?
De manière très organique. La conséquence directe de cette complexité inattendue, bah c'est le développement d'une agilité intellectuelle remarquable.
Et ça se voit au bureau, ça?
Complètement. Dans son entreprise, son manager finit par remarquer une évolution majeure dans sa posture. Il perçoit sa nouvelle capacité à modéliser des budgets complexes, à anticiper des flux de trésorerie sous pression.
Ce qu'elle faisait pour le club de sport, en fait.
Exactement. Et elle arrive à communiquer des chiffres arides, de manière claire, avec une acuité qu'elle n'avait tout simplement pas un an auparavant.
D'accord.
Et cette observation, elle se transforme rapidement en une promotion professionnelle bien réelle. Elle a prouvé sa compétence en dehors des murs de l'entreprise, mais les bénéfices y retournent directement.
Si je devais faire une analogie pour bien saisir la différence, c'est un peu comme apprendre à conduire. Les études classiques, c'est apprendre à piloter dans un simulateur ultra sécurisé.
Ouais, la belle théorie.
C'est ça. Et l'association, c'est être soudainement jeté sur un circuit de Formule 1 sous une pluie battante avec des pneus lisses.
C'est une excellente image.
Sauf que, et c'est là que je m'interroge quand même sur les limites de ce modèle, dans une entreprise classique, il y a toujours des garde-fous.
Oui, bien sûr.
Il y a un directeur financier au-dessus de toi, il y a des logiciels préconfigurés qui coûtent une fortune, des processus stricts pour valider chaque virgule.
Des procédures de validation dans tous les sens.
Voilà. Alors que dans une association de quartier, ces filets de sécurité, ils n'existent pas. Il doit y avoir un stress énorme à gérer l'argent public ou l'argent des adhérents avec très peu d'outils professionnels. C'est pas un risque énorme, ça ?
C'est un risque, oui, c'est clair. Mais c'est précisément l'absence de ce filet de sécurité qui crée l'immense valeur d'apprentissage.
C'est-à-dire ?
La contrainte de moyens dans une association, elle est souvent extrême. T'as pas le budget pour faire appel à un cabinet de conseil externe si t'as un doute.
Non, tu te débrouilles.
Voilà. Et t'as pas non plus le budget pour te tromper. Et c'est exactement cette contrainte radicale qui force l'individu à développer une ingéniosité folle. Une ingéniosité qui dépasse de très loin ce qu'on peut ingurgiter passivement dans les parcours académiques classiques.
La fameuse débrouillardise.
C'est ça. À l'école, on t'enseigne la théorie des systèmes parfaits, avec des ressources illimitées. Dans l'association, tu apprends la survie économique.
On apprend à faire énormément avec quasiment rien, en fait.
Et c'est l'essence même de l'optimisation. C'est une compétence inestimable pour n'importe quel employeur aujourd'hui.
D'accord. Le mécanisme sur les compétences techniques, le MBA accidentel, c'est très clair. On acquiert la maîtrise dans l'urgence, mais gérer des chiffres, même complexes, c'est qu'une face de la médaille.
Ah oui, la partie technique, c'est que le début.
Parce que dès qu'il y a de l'argent en jeu, ou de la pression, ou des objectifs à atteindre, particulièrement sans ressources, ça déclenche inévitablement de la friction humaine.
C'est le grand classique.
Des égos qui s'entrechoquent, des visions du monde qui s'opposent, l'argent, ça cristallise les tensions. Du coup, comment on parvient à gérer des équipes, à diriger des projets, quand les personnes en face ne sont même pas payées pour obéir ?
Et on touche là à la mécanique la plus puissante de l'engagement associatif, je pense. C'est la forge des compétences comportementales, les fameux « soft skills ».
On a un exemple là-dessus ?
Bien sûr. Observons le parcours d'Ahmed pour bien comprendre le processus psychologique. Ahmed, il a un profil très spécifique. C'est un ingénieur technique brillant.
Le genre de gars qui maîtrise son sujet sur le bout des doigts.
Totalement. Son expertise dans son domaine est incontestée. Mais il est littéralement terrifié par l'idée de prendre la parole en public.
Le pire cauchemar de l'introverti.
Voilà, l'interaction sociale complexe, la gestion des sensibilités, c'est absolument pas sa zone de confort. Pourtant, un jour, poussé par des amis, il se retrouve propulsé au poste de dirigeant d'une association culturelle.
J'imagine la panique.
Et ouais, soudain, la protection de son écran d'ordinateur disparaît. Il doit se lever devant une assemblée générale. On parle de réunir genre 60 personnes.
Oula.
Et il doit parler avec conviction pour défendre une feuille de route.
Ce qui est déjà une épreuve énorme pour beaucoup de monde. Mais j'imagine que ça ne s'arrête pas à un simple discours. C'est souvent là que les vrais conflits éclatent, au sein même du bureau, non ?
Absolument. Très vite, il se retrouve au centre de conflits ouverts. Des désaccords profonds émergent sur l'utilisation des fonds récoltés.
Toujours l'argent.
Toujours. Une partie du conseil d'administration veut investir massivement dans la communication externe et l'autre partie exige qu'on achète du nouveau matériel immédiatement.
Ça sent la réunion qui s'éternise, ça.
Exactement. Les tons montent, les réunions durent des heures, les portes claquent. Et là, Ahmed n'a pas le choix s'il ne veut pas voir l'association imploser. Il doit descendre dans l'arène, il doit se muer en médiateur.
Mais comment il fait concrètement sans avoir aucune formation en psychologie ou en management de crise ?
Il apprend sur le tas. Il découvre les leviers de l'écoute active par la force des choses. Il apprend à séparer l'émotionnel du factuel.
C'est super dur à faire ça.
Très dur. Mais il s'assoit avec les deux camps séparément. Il écoute des positions qui semblent complètement irréconciliables.
Et il arrive à trouver un terrain d'entente.
Ouais. Il reformule leurs peurs et il construit patiemment un compromis en rappelant constamment la mission commune de l'association. Ça permet d'apaiser des tensions qui étaient parfois très violentes.
C'est un boulot de diplomate, carrément.
C'est un processus douloureux, ça demande une énergie folle, mais c'est incroyablement formateur. En traversant ces épreuves, l'ingénieur introverti, il forge des compétences de leadership d'une solidité incroyable.
Et j'imagine qu'il y a eu un résultat direct sur sa carrière professionnelle.
Bien sûr. Cette nouvelle intelligence émotionnelle lui permet de postuler et de décrocher un poste de chef d'équipe dans son entreprise d'ingénierie.
Incroyable.
Un poste de management qu'il n'aurait jamais, mais jamais pu viser avec son profil initial purement technique.
Tu sais, il y a une vérité très cruelle du management qu'on évite souvent de dire à haute voix dans les séminaires d'entreprise.
Ah oui, laquelle ?
Gérer des bénévoles qui peuvent être capricieux, c'est vraiment l'épreuve ultime. Dans le monde de l'entreprise classique, quand on est manager, on a des leviers de pouvoir qui sont extrêmement clairs.
Oui, le contrat de travail, le salaire.
Voilà, c'est un management de type transactionnel. On peut utiliser la menace d'un blâme ou d'une mise à pied, ou à l'inverse, on peut agiter la promesse d'une prime de fin d'année.
La fameuse carotte et le bâton.
C'est ça. Mais sur ces chaises en plastique de la salle polyvalente dont on parlait au début, ces leviers n'existent pas. Si on critique un bénévole trop durement ou qu'on lui donne un ordre de manière péremptoire, il prend sa veste, il rentre chez lui et on le revoit jamais.
C'est sûr qu'il n'a aucune obligation de rester.
Du coup, il faut diriger par la pure influence, par l'inspiration. Si on parvient à maintenir la paix et à faire avancer des projets dans ce contexte de contrainte absolue, manager des salariés qui ont un contrat de travail, ça devient presque un jeu d'enfant en comparaison.
C'est exactement ça. Le leadership associatif est, par nature, un leadership de l'adhésion.
Ça ne repose jamais sur l'autorité hiérarchique.
Ni sur le pouvoir financier. Ça repose uniquement sur la capacité à donner du sens. Et quand on y réfléchit bien, c'est exactement le modèle vers lequel toutes les entreprises modernes tentent de pivoter aujourd'hui, en essayant de s'éloigner des structures hiérarchiques rigides.
C'est dans l'air du temps, clairement.
Mais il faut aller encore plus loin dans la réflexion. Lorsqu'on maîtrise à la fois la technicité aride des budgets sous haute contrainte, comme Camille,
ouais,
et la diplomatie complexe du leadership d'adhésion, comme Ahmed, on se retrouve inévitablement placé au centre de gravité d'un environnement fascinant.
J'imagine qu'on ne reste pas longtemps isolé. Être la personne qui résout les problèmes techniques et humains, ça attire forcément l'attention.
Précisément. L'expérience associative génère un réseau d'influence complètement organique.
Un exemple ?
Prenons l'histoire de Léa, qui devient présidente d'une association de quartier. Pour dynamiser son secteur, elle décide de monter un grand festival local.
Un gros projet, donc.
Un très gros projet. En portant ça, elle sort instantanément de sa condition de simple citoyenne ou de salariée anonyme. Elle se retrouve assiégée à des tables de réunion prestigieuses.
Elle change de dimension.
Elle traite d'égal à égal avec des chefs d'entreprise importants qui viennent sponsoriser l'événement, avec des élus locaux qui gèrent l'espace public, avec plein de décideurs influents.
Donc on sort du réseau classique des collègues de bureau. Mais le mot « réseau » ou « networking », ça a souvent mauvaise presse.
C'est vrai.
On imagine tout de suite des ambiances très codifiées. Tu vois le genre, des gens en costume qui échangent frénétiquement des cartes de visite de façon très superficielle autour d'un buffet froid.
Les fameux cocktails de réseautage. Mais c'est là toute la différence. Le réseau dont on parle ici, il se construit pas autour d'un buffet avec des petits fours. Il se construit dans la tranchée.
Dans la tranchée.
Ouais, par l'action. Lors de l'organisation de ce fameux festival, une crise majeure éclate. Un problème de sécurité imprévu menace d'annuler l'événement à quelques heures de l'ouverture.
Le cauchemar absolu de tout organisateur.
Léa, elle doit gérer cette crise en direct et sous les yeux d'un des principaux sponsors. Et là, elle garde son sang-froid, elle coordonne les équipes municipales, elle réorganise les flux de public et au final, elle sauve le festival.
Chapeau.
Et c'est là que ça devient intéressant. Quelques temps après, lors d'une discussion qui semblait complètement anodine, ce même sponsor lui propose directement de rejoindre un projet stratégique de développement durable. Et ça, au sein de sa propre grande entreprise.
Ah ouais, direct.
Directement. L'association agit ici comme une passerelle invisible, mais incroyablement solide, vers des sphères de décision inaccessibles autrement.
Il faut vraiment s'arrêter sur cet exemple précis parce que la mécanique sous-jacente est hyper puissante. Ce que ce sponsor a vu, en fait, c'est la preuve par l'action.
Exactement.
Dans un entretien d'embauche classique, le candidat, il fait des promesses. Il dit « je sais gérer le stress, je suis force de proposition, etc. »
Des mots sur un CV, quoi.
Voilà. Mais ce sponsor, il n'a pas eu besoin de lire le CV de Léa. Il l'a vu en action en temps réel. Il l'a vu gérer des fournisseurs en panique, trouver des solutions logistiques qui semblaient insolubles, et le tout avec le sourire.
C'est du concret.
Cette démonstration de compétences en direct, ça pulvérise littéralement tous les entretiens d'embauche du monde. On n'achète plus une promesse sur un bout de papier, on investit dans une réalité démontrée.
C'est vraiment le niveau supérieur de l'avantage concurrentiel sur le marché du travail.
C'est clair.
Cependant, l'analyse de tous ces parcours nous amène vers un terrain plus philosophique, je dirais, et peut-être plus profond.
Ah oui, ouais, c'est-à-dire ?
Jusqu'ici, on a beaucoup parlé de promotion, de reconversion brillante, d'acquisition de compétences pour grimper l'échelle sociale.
Oui, on reste dans une logique de performance et de carrière.
Voilà.
Et justement là-dessus, je vais me faire l'avocat du diable de manière assez frontale.
Allez, j'écoute.
Et si on ne cherche absolument aucune promotion ? Imaginons un profil extrêmement courant, un cadre intermédiaire dans le secteur bancaire ou de l'assurance.
D'accord.
La situation financière est très confortable, les horaires sont prévisibles, le poste est maîtrisé sur le bout des doigts, pas la moindre volonté de devenir directeur général.
Quelqu'un qui est bien où il est, en apparence.
En apparence, oui. Parce que le problème, le grand fléau actuel, c'est l'ennui profond. Une perte totale de repères face à des tableaux Excel remplis de chiffres abstraits à longueur de journée.
Le fameux bore-out ou brown-out.
C'est ça. Mais attends, si quelqu'un est épuisé psychologiquement par son travail la journée, comment le fait d'ajouter 10 heures de travail non rémunéré et stressant le soir, ça pourrait être autre chose qu'un aller simple vers l'hôpital ? C'est absurde, non ?
C'est une objection tout à fait légitime. Ça paraît insensé. Et pourtant, c'est un phénomène de société massif.
Comment ça s'explique ?
Reprenons ce que tu décris. La perte de sens, c'est exactement l'histoire de Julien. Julien, c'est un banquier très compétent, bien installé.
Mais qui s'ennuie.
Il ressent un vide existentiel terrible dans son travail quotidien. Et contre toute logique de repos, il devient trésorier d'une association qui milite pour l'inclusion sociale et le logement d'urgence.
D'accord, un gros engagement.
Un très gros engagement. Mathématiquement, comme tu dis, ajouter la comptabilité d'une asso à ses journées de banquier, ça devrait l'achever.
C'est le burn-out assuré, normalement.
Eh bien, il se produit exactement l'inverse sur le plan psychologique. Il trouve un regain d'énergie fulgurant.
Mais la question demeure, comment la fatigue physique, les heures de sommeil en moins, ça peut générer l'énergie mentale? C'est presque contre la biologie.
C'est parce qu'il faut séparer la fatigue cognitive de la fatigue émotionnelle. La fatigue mentale liée à l'absence de finalité, elle disparaît.
Ah, d'accord, le sens du travail change tout.
Exactement. Pour la première fois depuis des années, Julien voit l'impact direct, tangible et immédiat de ses calculs et de ses budgets sur des vies humaines réelles.
Ce ne sont plus juste des lignes sur un écran.
C'est ça. 30 euros alloués, optimisés ou économisés ici, ce n'est plus une simple ligne de marge dans un rapport trimestriel abstrait. C'est un repas chaud. C'est un toit temporaire pour une famille en détresse.
La réalité reprend le dessus.
Et cette reconnexion violente à l'impact réel, ça transforme complètement sa psychologie. Et la véritable surprise, c'est que ce changement déborde de l'association.
Ça impacte son travail de banquier.
Totalement. Ce retour sur investissement du sens, il rejaillit sur son métier. Il commence, de lui-même, à intégrer des dimensions éthiques, des critères de gouvernance sociétale, dans ses propres propositions de financement en entreprise.
Il ramène ça au bureau.
Il ne subit plus son métier, il le réinvente de l'intérieur en y injectant ses nouvelles convictions.
Mais la mécanique est en fait prodigieuse. Si on vulgarise un peu le concept, c'est comme si la salle polyvalente et l'association fonctionnaient à la manière d'une batterie externe pour l'âme professionnelle.
C'est une super métaphore, la batterie externe.
On s'y branche le soir, on y dépense certes une énergie calorique indéniable, on sacrifie du temps libre, mais on y recharge de manière massive sa jauge d'énergie mentale, sa motivation intrinsèque et son utilité sociale.
Le transfert de valeur est total.
Et le comble de l'ironie dans ce système, c'est que l'employeur principal, l'entreprise qui verse le salaire de 8h à 18h, elle finit par bénéficier gratuitement de ce regain de vitalité et d'innovation.
Oui, sans rien dépenser.
Le salarié ne démissionne pas pour fuir l'ennui, il se guérit lui-même grâce à son engagement extérieur. C'est fou.
C'est fascinant. Mais attention, il reste quand même une dernière étape indispensable pour que toute cette richesse soit réellement transformée en capital professionnel concret.
Ah, il y a un piège là.
Pas un piège, mais un obstacle. Posséder une agilité financière acquise dans l'urgence, une diplomatie de crise hors pair, un super carnet d'adresses et une énergie renouvelée, c'est merveilleux sur le plan personnel.
Oui.
Mais c'est parfaitement invisible et inutile sur le plan de la carrière si l'on ne sait pas traduire cette richesse pour les algorithmes des recruteurs.
Ah oui, le monde impitoyable du recrutement.
Surtout sur un marché du travail qui reste malheureusement très rigide et souvent complètement obsédé par les diplômes officiels.
Le fameux mur des ressources humaines. Comment faire comprendre un logiciel de recrutement que gérer la kermesse de l'école ou un festival de quartier, c'est parfois beaucoup plus difficile que de gérer une équipe de consultants?
Il faut impérativement maîtriser l'art de la traduction. Il faut parler le jargon de l'entreprise.
Tu as un exemple en tête ?
L'exemple d'Emma, qui est cadre dans le marketing, illustre ça parfaitement. Lors d'un entretien d'embauche pour un poste de direction très convoité, au lieu d'utiliser un vocabulaire classique, tu sais, de bonne volonté...
Du genre « j'aime le travail en équipe, je suis très dévouée ».
Voilà, les trucs très lisses. Bah, au lieu de faire ça, elle change totalement de paradigme. Elle sort son expérience de trésorière dans une ONG environnementale.
Et comment elle l'amène ?
Elle la raconte surtout pas comme une gentille anecdote de week-end. Elle la présente vraiment comme un business case, une étude de cas professionnelle implacable. Elle détaille comment elle a conçu, orchestré et mené de A à Z une campagne de financement participatif extrêmement complexe.
Mais concrètement, comment on traduit « j'ai récolté de l'argent pour planter des arbres » en langage corporate ?
C'est là qu'elle est forte. Au lieu de dire « on a fait un appel aux dons », elle démontre qu'elle a géré le cycle de vie complet d'un produit.
Ah oui, ça claque !
Elle montre comment elle a acquis de nouveaux donateurs avec un coût d'acquisition client, le fameux CAC, proche de 0 euros.
Elle balance des vraies métriques, quoi.
Elle aligne les taux de conversion. Elle détaille le plan de communication de crise qui a été mis en place lorsque la campagne stagnait à mi-parcours et la stratégie de fidélisation utilisée post-campagne.
Elle a transformé son bénévolat en plan d'action marketing pur et dur.
Exactement. Elle traduit la passion associative en indicateur de performance clé, les KPI, que le recruteur peut immédiatement comparer à ceux de ses propres chefs de projet en interne.
Ce qui doit être fascinant à observer du côté du recruteur, c'est l'analyse psychologique qu'il fait de cette présentation.
Oh que oui, l'impact est massif.
Parce que face à ces chiffres, ce qui le séduit sans doute le plus, au-delà de la compétence technique évidente qu'elle montre, c'est la proactivité viscérale du profil.
C'est l'initiative personnelle qui prime.
Emma, elle n'a pas passé ses nuits sur cette campagne parce que son boss l'y obligeait avec la menace d'une mauvaise évaluation annuelle. Elle ne l'a pas fait pour un bonus financier en fin d'année.
Aucune carotte.
Elle l'a fait par pure conviction, par un besoin viscéral d'accomplir une mission en surmontant des obstacles, sans aucun filet de sécurité. Pour une entreprise en quête d'innovation, découvrir un profil qui possède ce moteur interne, c'est le graal absolu, quoi.
C'est la preuve irréfutable d'un véritable tempérament de leader.
Ce qui rend d'autant plus absurde l'erreur classique qu'on voit tout le temps sur les CV, le fait de reléguer ses expériences tout en bas de la page.
Ah oui, dans la rubrique « centre d'intérêt ».
Voilà. Caché en police taille 8, coincé entre la passion pour les voyages et la pratique du tennis de table. Ces accomplissements structurels, ils doivent trôner au centre du profil.
L'enjeu de la visibilité, il est vraiment crucial. Et d'ailleurs, si on rassemble l'ensemble des dynamiques qu'on a évoquées aujourd'hui, bah, la conclusion s'impose d'elle-même et ça vient fracturer pas mal d'idées reçues.
On résume.
Allons-y. Le rôle de dirigeant, de trésorier ou de secrétaire dans le tissu associatif, ça dépasse infiniment le cadre noble, mais finalement très réducteur du simple don de soi.
C'est pas juste être sympa et donner de son temps.
Non, ce n'est pas qu'une question de charité ou de générosité. Il s'agit en réalité d'une formation continue accélérée, d'un incubateur personnel extrêmement puissant. Ce processus agit vraiment comme un révélateur.
Ça révèle des compétences insoupçonnées.
Ça dévoile des talents souvent anesthésiés par la routine et les processus ultra-rigides du salariat classique. Ça forge des compétences techniques d'une complexité rare, née de la confrontation avec le manque cruel de moyens.
La débrouillardise de l'extrême.
Exactement. Ça sculpte une intelligence émotionnelle hors norme face à la complexité de la gestion des rapports humains non contractuels. Et, in fine, si c'est assumé et bien traduit, comme Emma, ça ouvre des portes professionnelles qu'aucun diplôme seul n'aurait pu déverrouiller.
Ce vaste panorama de l'engagement nous amène à une réflexion finale qui soulève un paradoxe assez frappant dans notre système économique actuel.
Un paradoxe de taille, oui.
Parce que lorsqu'on observe à quel point cette immersion associative est capable de forger des individus capables de résoudre des conflits humains insolubles, de gérer des budgets dans la tempête, de communiquer avec justesse, et surtout de redonner un sens profond à l'action collective.
Oui, quand on voit tous ces bénéfices.
Millions d'euros chaque année dans des séminaires de team building qui sont totalement artificiels.
Ah, les fameux séminaires.
Ces événements où l'on fait construire des tours en spaghettis dans des hôtels de banlieue pour simuler de façon complètement factice la cohésion d'équipe.
Ça a toujours un côté très forcé, c'est vrai.
Mais pourquoi ne pas réorienter ces budgets massifs pour financer, soutenir et encourager activement les salariés à prendre des responsabilités concrètes, réelles et utiles dans le tissu associatif local ? Ce serait sans doute là la forme la plus aboutie, la plus authentique et la plus puissante de développement professionnel, non ?
C'est une excellente piste de réflexion. Il y a clairement matière à repenser entièrement notre façon d'apprendre et de nous développer.
Alors, la prochaine fois qu'on passe le soir devant l'une de ces petites salles polyvalentes éclairées par un néon blafard, il ne faudra plus se fier aux apparences. À travers la vitre, on n'y verra pas seulement des citoyens fatigués après leur journée de boulot, on y verra, en réalité, l'une des écoles de management et de leadership les plus exigeantes et les plus puissantes qui soient.